Pour commencer notre exploration en profondeur aujourd'hui, on va imaginer une scène de film. La toute première scène du film Le Parrain.
Ah oui, un grand classique de l'histoire du cinéma.
Ouais, on a le fossoyeur Amerigo Bonazera qui vient voir Don Corleone. Il lui demande une faveur énorme et pour ça, il propose tout simplement de l'argent pour que justice soit faite.
Et c'est là que le parrain le prend super mal en fait, il est profondément vexé.
Exactement, il est hyper offensé parce que ce qu'il veut, c'est pas des billets, c'est une relation, une allégeance, une dette personnelle indéfectible.
C'est ça.
Et le truc, c'est que dans notre monde moderne, on regarde cette scène et on y voit l'essence même de la corruption. La mafia, quoi. Aujourd'hui, on veut des systèmes neutres. On a besoin d'un truc, on va sur Amazon.
On veut un prêt, on remplit un formulaire automatique.
Voilà. Et si quelqu'un obtient un super job juste parce qu'il connaît le directeur au lieu de passer par les RH, on crie au népotisme. On dit que c'est injuste.
Ce qui est normal avec nos standards actuels. Mais c'est là que ça devient fascinant.
Ouais. Parce que l'analyse des sources qu'on fait aujourd'hui, en se basant sur les travaux du docteur David de Silva sur le monde culturel du 1er siècle, montre une réalité complètement différente. Cette scène du parrain, c'était pas de la corruption dans l'Antiquité méditerranéenne.
Non, c'était même l'inverse. C'était le ciment absolu de la civilisation.
C'est fou, quoi. La survie entière d'un individu dépendait de ce réseau d'obligations personnelles. C'était pas ce qu'on connaît, c'était qui on connaît.
Et il faut bien comprendre pourquoi ce système s'est imposé comme l'unique moyen de faire fonctionner la société. Le monde antique ne possédait absolument aucun filet de sécurité sociale.
Pas d'allocation, pas de chômage.
Rien de tout ça. Pas d'hôpitaux publics, pas d'aide de l'État en cas de catastrophe. Quand une sécheresse frappait, c'était la famine immédiate.
Radical.
Oui. Donc la seule façon de ne pas mourir de faim ou de ne pas finir vendu comme esclave pour payer ses dettes, c'était d'être connecté à quelqu'un de plus puissant.
C'est ce qu'on appelle le système de patronage, c'est ça exactement.
Exactement. Le grand philosophe romain Sénèque disait même que la pratique d'échanger des faveurs, c'était la force motrice de l'humanité, son lien principal.
Donc, loin d'être vu comme de la triche, c'était la vertu suprême de la justice.
Absolument. C'est le cœur de la justice sociale antique.
Bon, du coup, décortiquons un peu tout ça pour ceux qui nous écoutent. La dynamique de base, elle est construite sur une grosse inégalité, une asymétrie assumée.
C'est le principe même du mécène et du client.
Ouais. D'un côté, on a le mécène, le patron, qui a les ressources, les terres, le cash, le pouvoir politique, le blé. Et de l'autre, on a le client, qui galère, qui est dans le besoin.
Et donc, le client approche le mécène pour obtenir cette assistance qui est vitale pour lui.
Mais c'est la contrepartie qui m'interpelle le plus. Parce qu'on pourrait croire que le patron donne par pure charité, genre pour la beauté du geste, mais pas du tout. Le client signe un contrat invisible, il doit offrir sa gratitude, sa loyauté, et surtout, il a le devoir de publiciser la générosité de son bienfaiteur sur la place publique.
C'est la règle d'or du système.
En lisant ça dans les sources, j'ai tout de suite pensé à un truc hyper moderne. C'est l'économie de l'attention. En fait, le client antique, c'est l'influenceur des réseaux sociaux de l'époque.
Ah, mais l'image de l'influenceur, ça capture parfaitement la mécanique de l'échange.
Son boulot, c'est de booster l'algorithme social de son patron, quoi.
C'est tout à fait ça. Le mécène antique n'investit pas pour avoir un retour financier. Il sait très bien qu'un client pauvre ne pourra jamais rembourser le champ qu'il lui a donné.
Logique.
Par contre, ce que le mécène veut, c'est accumuler de l'honneur et du pouvoir politique. Et le client, il peut escorter son mécène tous les matins sur le forum pour montrer à tout le monde que cet homme pèse lourd.
Il va liker et partager en direct sur la place du marché.
Exactement. Il vote pour lui aux élections locales, il crie ses louanges dans les assemblées. C'est cette armée visible de clients, cette, on pourrait dire, monnaie de réputation, qui permettait aux mécènes de grimper les échelons du pouvoir dans des villes comme Rome ou Éphèse.
Mais logistiquement parlant, il y a un bug dans la matrice, ça crée un goulot d'étranglement, non?
Comment ça?
Le pain d'un mécène repose sur ce qu'il a dans ses propres coffres. Imaginons, je suis un patron hyper riche, j'ai des tonnes de blé. Mon client vient me voir, mais cette fois, il n'a pas faim. Il a besoin, je ne sais pas, d'un permis de construire impérial ou d'une exemption d'impôt.
Quelque chose que tu n'as pas le pouvoir légal de donner.
Voilà, Là, le système devrait planter. Sauf que, et c'est fascinant, la société a développé une solution de secours pour combler cette faille. Le rôle du courtier. Le fameux broker.
Ah, le courtier, c'est celui qui transforme le petit système local en un réseau mondial. Parce que parfois, le plus grand cadeau qu'un homme puissant puisse offrir, c'est pas de l'or ou du blé, c'est l'accès.
Le cadeau de l'accès à quelqu'un d'autre.
Voilà. Le courtier agit comme un pont entre deux personnes qui ne pourraient jamais se croiser normalement. Les textes antiques regorgent de ces figures.
Il y a l'exemple de Créon, c'est sale.
Tout à fait, dans la tragédie d'Œdipe. Le pouvoir immense de Créon vient pas du trône, ça vient du fait qu'il contrôle l'oreille du roi Œdipe. Si on veut une faveur du roi, il faut d'abord s'attirer les bonnes grâces de Créon.
Et c'est pas juste dans la mythologie. L'exemple de Pline le Jeune illustre ça à la perfection dans la vraie vie administrative.
C'est un super cas d'étude, oui.
Pline était gouverneur de Provence, donc il pesait lourd. Mais son vrai super pouvoir, c'était qu'il avait la ligne directe avec l'empereur Trajan. Et quand son propre masseur personnel, oui, son masseur, a eu besoin de la citoyenneté romaine, bah Pline ne pouvait pas signer le papier lui-même.
Donc il a utilisé son crédit politique.
Ouais, il a utilisé sa relation avec l'empereur pour faire le pont et obtenir cette citoyenneté. Il a dépensé son capital social pour quelqu'un d'autre.
Il y a quand même un point important à préciser. Ce système change de nom selon les personnes impliquées. Et c'est crucial pour comprendre la psychologie de l'époque.
C'est-à-dire ?
Jusqu'ici, on a parlé de relations asymétriques entre des riches et des pauvres. Mais les mêmes échanges de faveurs se faisaient entre personnes du même rang. Et quand c'était entre égaux, on n'appelait plus ça du patronage, on appelait ça de l'amitié.
Et c'est là que j'ai un vrai problème de compréhension avec nos yeux modernes. Parce que cette définition de l'amitié me paraît hyper cynique.
Cynique ?
Bah carrément. Regarde les exemples historiques. Ponce Pilate et Hérode Antipas. Les textes racontent qu'en pleine crise politique, Pilate fait une faveur à Hérode en lui envoyant un prisonnier et, paf, soudainement, ils deviennent amis.
C'est vrai que ça paraît soudain.
Et c'est pas que chez les politiciens. Les sources parlent des paysans grecs décrits par Hésiode. Ils se prêtent des semences et des outils d'une année sur l'autre. Mais si je te prête un outil juste pour m'assurer que tu me donneras du blé l'année prochaine si j'ai faim, honnêtement, c'est pas de l'amitié. C'est un contrat d'assurance. C'est du réseautage professionnel ultra froid.
Je comprends tout à fait pourquoi on le perçoit comme ça. Mais notre difficulté vient du fait qu'aujourd'hui, on sépare strictement le transactionnel de l'émotionnel. Les anciens, eux, ne faisaient pas cette distinction.
Mais comment une transaction peut être chaleureuse ?
Pour saisir ça, il faut comparer cette amitié à la bienfaisance publique. Si un patricien super riche finançait un théâtre pour sa ville, là, oui, c'était froid.
Le nom gravé sur le mur et basta.
Voilà, la foule applaudit, mais aucun citoyen ne se sent redevable dans sa chair. Par contre, le patronage privé, cette fameuse amitié dont parle Hésiode, c'est viscéral.
Ça touchait vraiment aux émotions, eh.
Profondément. Quand ton voisin te prête de quoi sauver tes enfants de la famine, la dette n'est pas un chiffre sur un bout de papier, c'est un lien de sang, métaphorique. Ça crée une affection sincère. Et ça devenait même intergénérationnel.
Ah ouais, donc à la mort du père, le fils héritait des terres, mais aussi de toutes les dettes de gratitude.
Exactement. Il héritait des amis de son père. Le lien survivait à la mort.
C'est dingue quand on y pense. Et si cette mécanique de la dette personnelle, avec tout ce poids émotionnel, était la force la plus puissante de l'univers humain, ben c'est totalement logique que cette culture les projetait vers le ciel.
C'est la clé pour comprendre leur spiritualité. La théologie antique, c'est un copier-coller de la structure sociale.
Les dieux étaient les mécènes ultimes.
Totalement. Pour l'esprit antique grec, romain ou juif, les divinités dispensent les faveurs que les humains ne peuvent pas produire eux-mêmes. Faire tomber la pluie, assurer la fertilité, donner la victoire.
Et du coup, le prêtre, c'est le courtier par excellence.
Mais oui. D'ailleurs, le mot latin pour prêtre, c'est pontifex, ce qui veut littéralement dire bâtisseur de pont. Le prêtre est l'intermédiaire qui fait circuler la faveur entre le grand patron au ciel et le client sur terre.
Et ça corrige une idée reçue énorme qu'on a sur la religion antique. Souvent, on résume ça à une transaction mesquine, le fameux « do ut de » latin, « je donne pour que tu donnes ».
L'image du paysan qui égorge une chèvre pour forcer la main du dieu soleil.
Exactement. Alors que l'analyse des sources montre que la logique dominante, c'était plutôt le « do qui a des disti », « je donne parce que tu as déjà donné ».
C'est la grâce préalable, oui. L'action première vient du dieu et l'humain est obligé de répondre par le sacrifice qui est l'équivalent du chant de louange de l'influenceur.
Et c'est là que ça devient vraiment ironique, historiquement parlant. L'exemple d'Auguste dans l'Empire romain.
Les cultes de l'empereur, c'est le cas d'école parfait.
C'est d'une ironie mordante, franchement. Le gars se retrouve vénéré, on lui construit des temples de son vivant, des prêtres font des cultes en son honneur à travers tout l'Empire, et tout ça parce qu'il a amené la paix en Méditerranée.
La fameuse Pax Romana.
Sauf que, et c'est là que c'est cynique, cette paix, elle mettait fin à des décennies de guerres civiles sanglantes que Jules César et Auguste lui-même avaient allumées. Hein. En gros, l'humanité divinise le pyromane juste parce qu'il a fini par accepter d'éteindre son propre incendie.
C'est vrai que pour notre conscience morale moderne, l'origine du chaos invaliderait complètement son statut de sauveur. On dirait juste, tu répares tes bêtises.
C'est clair.
Mais dans l'algorithme social du 1er siècle, la moralité du passé pesait beaucoup moins lourd que l'ampleur du cadeau final. Le don d'Auguste sécurisait les routes, arrêtait les carnages, permettait aux récoltes d'arriver.
Un cadeau de dimension cosmique, en fait.
Voilà. Et un cadeau d'une telle dimension, ça créait un déséquilibre social insupportable. Le monde entier devenait le client d'Auguste. Et on ne peut pas équilibrer une dette de cette ampleur avec une simple stature ou une lettre de remerciement.
Donc la seule monnaie de gratitude à la hauteur pour pas passer pour des ingrats.
C'était l'adoration cultuelle. On devait le traiter comme un dieu.
Et toute cette angoisse d'être en dette, cette obligation de maintenir le flux de l'échange, ça nous amène au cœur de notre exploration. Au mot-clé. Un mot grec qui a tellement muté avec le temps qu'on a oublié ce qu'il veut dire. La grâce. Charis.
Le moteur même de toute cette économie sociale.
Aujourd'hui, la grâce, on s'imagine un concept éthéré de séminaire de théologie. C'est invisible, c'est mystique. Alors qu'à l'époque, c'était le vocabulaire de la rue. C'était la sueur, l'argent, la survie.
Et ce qui est fascinant avec ce mot, Charis, c'est qu'il englobait trois réalités en une seule.
Vas-y, explique-nous.
Premièrement, ça désignait l'attitude du mécène, sa volonté d'être généreux. Deuxièmement, ça désignait la chose physique elle-même. Le sac de grains, la guérison, l'exemption d'impôts.
D'accord.
Et troisièmement, le mot désignait la réponse du client, sa gratitude active. C'est un mouvement perpétuel. D'ailleurs, le pire crime dans cette culture, bien avant le vol, c'était l'ingratitude, la charistia.
Refuser de jouer le jeu, c'était menacer la civilisation.
Et il y a une image visuelle de Sénèque qui rend ça hyper palpable. Les trois grâces.
Ah oui, les fameuses déesses. On les voit sur plein de fresques antiques. Ce sont trois déesses souriantes qui dansent en formant un cercle, chacune tenant la main de l'autre. Le flux passe d'une main à l'autre sans s'arrêter. Et c'est pas juste décoratif, c'est le mode d'emploi de leur monde.
L'harmonie parfaite de la réciprocité.
Ouais. Si tu décides de pas rendre une faveur, tu fais preuve d'ingratitude. Et faire ça, c'est littéralement lâcher la main de ton partenaire en plein milieu du bal, lui marcher sur les pieds et arrêter la musique. Tu casses le cercle.
Et pour que cette danse ne s'arrête jamais, il y avait des règles strictes des deux côtés. Le mécène devait donner sans exiger un remboursement comptable immédiat, mais il ne donnait pas à l'aveugle.
Il scannait les profils, quoi.
Il scrutait le caractère du client. Il fallait choisir quelqu'un qui avait la réputation d'être reconnaissant, l'équivalent de vérifier la cote de crédit d'un emprunteur aujourd'hui.
Et du côté du client, la règle absolue, c'était la loyauté, même quand le navire prenait l'eau. Et l'histoire d'Hérode le Grand illustre ça de façon magistrale.
Ah, Hérode était un tacticien de génie pour le patronage.
Complètement. Il est connu pour sa cruauté, mais il maîtrise le système. Il était le client d'un mécène surpuissant, le général Marc-Antoine. Le problème, c'est que Marc-Antoine perd la guerre civile contre Octave, le futur empereur Auguste.
Du jour au lendemain, Hérode se retrouve dans le camp des perdants.
Son patron est ruiné, puis mort. En toute logique, le nouveau boss, Octave, devrait l'exécuter. Mais Hérode fait un coup de poker incroyable. Il va voir Octave et il lui dit « J'ai été d'une fidélité absolue envers Marc-Antoine. J'ai financé ses troupes jusqu'au bout, même quand il perdait. Je m'excuse de rien. »
C'est très audacieux.
Grave. Et il lui dit « Regarde bien, tu as la preuve vivante que je sais être un client hyper loyal. Prends-moi comme client, je le serai avec toi. » Et Octave a compris la valeur de cette loyauté. Il lui a laissé la vie et le pouvoir.
Parce que la vertu de réciprocité surclassait l'opportunisme.
Exactement.
Mais du coup, une question se pose. Comment un concept aussi ancré dans la politique, l'économie et la chair, comme la grâce, est devenu le truc purement spirituel et individuel qu'on connaît aujourd'hui ?
C'est un basculement historique majeur, en fait. Avec le temps, l'Empire a muté. On a créé des structures étatiques. L'interdépendance personnelle a commencé à disparaître. Et la théologie s'est intériorisée.
Le mot charis est resté dans les textes.
Oui, mais il a été vidé de sa réalité socio-économique tangible pour ne plus désigner qu'une transaction invisible dans la tête des gens, entre leur âme et Dieu.
Et pour vraiment réaliser à quel point on a perdu le sens de cette action sociale, il n'y a rien de tel qu'une étude de cas dans les textes anciens. Le chapitre 7 de l'Évangile de Luc, l'histoire du centurion.
Ah oui, ce texte condense tout ce qu'on vient de dire, c'est impressionnant. Plantons le décor. On est à Capharnaüm et on a un centurion romain dont le serviteur est à l'agonie.
C'est un officier de l'armée d'occupation.
Ouais, mais un mec intelligent. Il a joué le jeu du patronage local pour pacifier le coin. Il a financé la synagogue avec son propre argent, donc il a le statut de bienfaiteur. Sauf que face à la maladie, tout son pouvoir ne sert plus à rien.
Il lui faut un mécène plus fort.
Il a besoin de Jésus, le guérisseur. Mais le centurion sait très bien que les barrières sociales entre un soldat romain et un guérisseur juif sont hyper tendues.
Alors il n'y va pas lui-même ?
Et non si.
Il active son réseau. Il utilise l'outil parfait qu'on a vu tout à l'heure, les courtiers.
Les brokers.
Il envoie les anciens de la communauté juive.
Qui sont socialement ses clients, vu qu'il a payé leur bâtiment ?
Exactement. Les anciens abordent Jésus pour négocier la faveur. Ils utilisent leur propre crédibilité culturelle pour vendre le centurion en disant « Il mérite cette grâce, il aime notre nation, il a bâti la synagogue ».
Ils remboursent leur dette envers le Romain en lui offrant l'accès vital à Jésus. Et c'est là que l'histoire culmine avec une redéfinition dingue d'un autre mot fondamental.
La foi.
Ouais. Pendant que Jésus est en route, le centurion fait envoyer un deuxième message pour l'arrêter. Il dit « Je ne suis pas digne que tu entres chez moi, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ».
Et il utilise le vocabulaire de la hiérarchie.
Il dit « Moi aussi, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « va » et il y va ». Et ce que le centurion fait ici, il illustre parfaitement le mot « pistis », ce qu'on traduit par la foi. Sauf que nous, aujourd'hui, on se trompe de définition.
C'est un point de bascule intellectuel majeur. Pour nous, la foi, c'est cognitif. C'est adhérer à une idée dans sa tête, genre « je crois que Dieu existe ».
Alors qu'à l'époque...
Dans l'univers du patronage, la pistis, c'est la confiance contractuelle et absolue dans la fiabilité d'un mécène.
C'est la chaîne de commandement.
Voilà. Le centurion transpose les règles de l'armée au domaine divin. Il dit à Jésus « Je connais le système. Ton autorité est tellement totale que le cosmos obéira à ton mot. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. »
Et Jésus est stupéfait, d'après le texte. Il admire publiquement cette pistis, cette loyauté confiante, parce que le centurion a totalement décodé le système de patronage divin.
Quand on prend un peu de hauteur sur tout ça, le changement de paradigme est total. On part d'une vision moderne où utiliser ses relations, c'est mal, c'est du népotisme qui détruit la méritocratie, et on découvre qu'à l'époque, avant nos institutions froides, ce filet de sécurité basé sur la grâce, les courtiers, la loyauté, c'était la seule chose qui empêchait le chaos.
C'était une danse ininterrompue. Et honnêtement, ça pique un peu, ça nous force à regarder notre propre monde dans un miroir.
À quel niveau ?
Ben, on a bâti des sociétés hyper indépendantes, on achète nos assurances, on paye pour la santé, on veut des contrats blindés, avec l'obsession de jamais rien devoir à personne au niveau personnel.
C'est vrai.
Nos vies sont devenues hyper transactionnelles, mais incroyablement impersonnelles. Alors que le système antique, avec toutes ses inégalités énormes, il obligeait les humains à s'impliquer organiquement les uns avec les autres. L'interdépendance, c'était le sang de la cité. On ne pouvait pas survivre isolé dans son coin.
Ce qui soulève une interrogation vraiment profonde pour clore cette immersion.
Je t'écoute.
On a bien vu que la grâce et la foi ont d'abord été des pratiques physiques, des actes tangibles de loyauté, des dettes mutuelles liées à la survie de la communauté, bien avant de devenir des abstractions spirituelles.
Tout à fait.
Alors, notre esprit curieux est en droit de se demander si, à l'origine, la grâce et la foi étaient le ciment d'un tissu social fait de responsabilités matérielles et d'entraide, que se passe-t-il dans une société moderne qui tente de pratiquer ces concepts uniquement comme de simples croyances, privées, invisibles et finalement...
totalement déconnectées de la moindre responsabilité concrète envers son prochain.